Reste assis. Comme tous les dimanches de carême, au cœur de l'office des Vêpres, il y a une prédication qui nous présente un témoin de la miséricorde en cette année où notre évêque a écrit cette lettre pastorale sur la miséricorde et où nous avons installé dans le cloître le parcours de miséricorde. C'est la dernière prédication puisque la semaine prochaine, ce sera la fête des rameaux. La semaine dernière, j'ai fait un grand panorama historique pour situer l'histoire du curé d'Ars dans la grande histoire et découvrir comment son amour de la miséricorde, dont je vais parler aujourd'hui, était le fruit de ce qu'il avait vécu, notamment lors du décès de son plus jeune frère et de sa mère, décès dans lesquels il avait une part de responsabilité indirecte, certes, mais réelle. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment la miséricorde a été au cœur de son ministère. Un premier point que j'ai intitulé, peut-être de manière un peu mystérieuse pour vous, le passage du rigorisme au ligorisme. Voilà une formule qui a de quoi intriguer. De quoi s'agit-il ? Le rigorisme, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Et on en parle forcément quand on évoque la vie du Saint curé d'Ars. Je vais y revenir. Mais de quoi parle-t-on quand on utilise ce mot de ligorisme ? Saint Alphonse de Ligorie est né un siècle plus tôt que Jean-Marie Vianney et il est le fondateur de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur. Il se trouve que Monseigneur de Vie, l'évêque du curé d'Ars, avant d'être l'évêque de ce diocèse, était un grand spécialiste de Saint Alphonse de Ligorie. Arrivant dans le diocèse dont il est nommé évêque, il va chercher à faire découvrir à ses prêtres cette belle figure d'Alphonse de Ligorie et il profitera pour cela de toutes les rencontres qu'il avait avec eux. Monseigneur de Vie cherchait à leur faire partager sa connaissance du ligorisme, non pas pour montrer qu'il était un évêque savant, mais parce qu'il cherchait à convaincre ses prêtres qu'en s'ouvrant à la miséricorde, ils pourraient renouveler leur pastorale, ce qui était l'axe de la pensée de saint Alphonse de Ligorie. Et ces enseignements de son évêque ont sûrement touché le cœur du saint curé d'Ars, qui avait été formé, je l'ai rappelé la dernière fois, dans un esprit assez rigoriste, qui était globalement l'air ambiant, mais dont le curé d'Ars avait été particulièrement imprégné par sa fréquentation de l'abbé Ballet, son maître, celui qui l'aura recueilli quand il a été renvoyé du séminaire et qui va le former avec tant de patience et d'amour. Alors regardons plus précisément la trajectoire de cette évolution pastorale du curé d'Ars. C'est ce que je voudrais aborder dans un deuxième point, l'évolution du curé d'Ars. Le rigorisme, je l'ai dit, c'était l'air ambiant que respiraient les pasteurs et donc parfois de conséquence le peuple chrétien. À cette époque, on parlait du bon Dieu, mais il n'est pas sûr que les gens croyaient vraiment ce que disait cette expression. Pour eux, Dieu était-il bon ? Ça reste à prouver. En effet, la perspective du salut générait beaucoup d'angoisse à cause de l'image largement véhiculée d'un Dieu juge qui n'octroyait le ciel qu'à une poignée de méritants. Jean-Marie Vianney lui-même, au début de son ministère, parlait la plupart du temps de l'enfer. Ça, c'était l'héritage de sa formation chez l'abbé Ballet un prêtre absolument admirable, mais qui appartenait à un ordre religieux, l'ordre des Génovéfains, les chanoines de Sainte-Geneviève. Ce sera le dernier ordre religieux à intégrer la condamnation du jansénisme, cette doctrine qui précisément entretenait l'angoisse du salut. Alors, suivre l'évolution de la prédication du Saint Curé d'Ars, c'est vraiment contempler avec un regard émerveillé le travail de la grâce dans le cœur de ce prêtre admirable. Ce qu'il va prêcher au fil des années ressemblera de moins en moins à ce qu'il avait appris. On peut dire que l'Esprit Saint, auquel il portait un grand amour, à une époque où il était quand même un peu l'oublié, semblait l'enseigner en direct, lui inspirant des paroles et des actes bien peu conventionnels pour l'époque. Cela lui vaudra pas mal de démêlés avec ses confrères, qui, jaloux de son succès, le dénonceront plusieurs fois à l'évêque pour sa théologie si peu fiable à cause de sa trop grande miséricorde. Sortant peu à peu du rigorisme pour entrer dans le ligorisme, le curé d'Ars va donc avoir une prédication très miséricordieuse et une pastorale très miséricordieuse. Je veux juste souligner deux points. Cette pastorale miséricordieuse permet d'expliquer une bizarrerie dans son église. Si vous l'avez visitée, vous avez peut-être été étonné que dans cette toute petite église, qui a été rallongée après sa mort, mais à son époque c'était une toute petite église, il y avait plusieurs confessionnaux, alors qu'il était habituellement le seul confesseur. Mais ces confessionnaux étaient tous placés à des endroits extrêmement stratégiques. Il voulait ainsi manifester, comme le disait Saint Jean-Paul II, que nul ne doit être exclu de l'accolade de la miséricorde. C'est pourquoi il voulait faciliter la démarche des pécheurs en leur évitant de faire des démarches trop voyantes, trop humiliantes. Et le dernier confessionnal qu'il a installé, c'est juste à côté d'une petite porte qu'il avait fait percer pour que les gens puissent rentrer directement et passer au confessionnal sans que personne ne les voie. Quelle délicatesse! L'autre élément, nous connaissons les merveilleuses paroles du curé d'Ars sur la miséricorde. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé qui emporte tout sur son passage. Ou encore, ce n'est pas le pénitent qui court après le bon Dieu, mais c'est Dieu qui court après lui. Et puis, vos fautes sont comme des grains de sable à côté de la grande montagne de la miséricorde de Dieu. Je pourrais en citer comme ça pendant un bon moment. Pourtant, si le curé d'Ars prêchait et pratiquait le ligorisme pour les autres, le rigorisme restera sa ligne de conduite personnelle. Comment peut-on comprendre cela ? Troisième point, un malentendu qui a la vie dure. Il faut oser le dire, pendant des années, en tout cas en France, le curé d'Ars a été un modèle, sinon rejeté, au moins suspecté, par un certain nombre de prêtres, précisément à cause de ce rigorisme. Ils avaient l'impression qu'on donnait en exemple un prêtre qui certes avait de belles paroles de consolation, mais qui en privé mangeait des patates pourries et se flagellait. Alors cette opinion comporte une double erreur. Première erreur, un peu anecdotique, j'en conviens, les patates pourries, c'est une légende. Le père Naudet, grand spécialiste du curé d'Ars, expliquait qu'il était impossible de manger des patates pourries. En effet, en pourrissant, elles produisaient des éléments extrêmement toxiques qui auraient fini par l'empoisonner. Alors c'est sûr, hein, le curé d'Ars n'était pas très attaché à la qualité de ce qu'il mangeait et à l'équilibre de ses repas. Il traitait sans ménagement son corps, qu'il aimait appeler son cadavre, un peu dans la lignée de saint François d'Assise. Mais arrêtons de dire qu'il mangeait des patates pourries, c'est pas vrai. Son rigorisme n'allait pas jusque-là. Remarquez, il a essayé de manger de l'herbe pendant des semaines. Deuxième erreur, bien plus fondamentale, c'est la mécompréhension de l'objectif que le curé d'Ars poursuivait en s'infligeant de telles mortifications. Il n'y avait rien de névrotique dans toutes ces pratiques. Alors essayons de comprendre le sens des pénitences qu'il s'imposait. C'est un quatrième point, le sens des mortifications. Je le répète, son passage au ligorisme pastoral, à la miséricorde, n'aura pas supprimé le rigorisme personnel, mais va donner un tout autre sens. Il reconnaîtra d'ailleurs lui-même que dans les premières années de son ministère, il avait poussé la pratique de l'ascèse à un point extrême. Il parlera à ce sujet de ses erreurs de jeunesse. Pour comprendre, nous devons nous rappeler qu'à l'époque, nous sortions de ce qu'on appelait la pénitence tarifée. C'est-à-dire que les confesseurs étaient formés en apprenant qu'à tel type de péché correspondait tel type de pénitence. Et je peux vous dire qu'à l'époque, en matière de pénitence, les confesseurs étaient plutôt enclins à en rajouter qu'à en enlever. Ce qui fait que les gens n'osaient plus aller se confesser tellement les pénitences étaient terribles. Jean-Marie Vianney avait été formé dans cet esprit-là. Et je l'ai dit, comme il manquait terriblement de confiance en lui, il ne risquait pas de prendre des initiatives en allégeant les pénitences. Tout cela devait bien le tourmenter, parce qu'il savait que certains pécheurs endurcis ne fréquentaient plus le confessionnal précisément par peur de la dureté de la pénitence qui leur serait infligée. Alors, comment pouvait-il faire pour que nul ne soit exclu de l'accolade de la miséricorde ? Et en même temps, il lui fallait rester loyal par rapport à la loi de l'Église qui lui avait été inculquée. Comment résoudre ce dilemme ? Il a fini par trouver la solution. Et nous la connaissons, grâce à une question qui lui a été posée à ce sujet. Nous le savons, c'est au confessionnal que le curé d'Ars a acquis cette réputation qui fera déferler des milliers de pèlerins à Ars. Tout cela est parti d'une mission à Trévoux, Trévoux, la paroisse dans laquelle le père Michel Jean a été curé avant de venir ici. Cette bourgade à quelques kilomètres d'Ars, il y avait une mission qui avait été organisée, comme il y en avait beaucoup à l'époque, et tous les prêtres étaient réunis, et les prêtres du canton se partageaient les prédications, mais le curé d'Ars en avait tellement peu confiance dans sa théologie que lui, on le clouait au confessionnal en disant « Pendant que nous, on parlera, vous vous confesserez. » Mais au confessionnal, il développait une telle miséricorde que les gens se bousculaient pour venir se confesser auprès de lui. Et à Trévoux, ils se sont tellement bousculés que le confessionnal s'est écroulé sur lui. C'est parce que sa réputation de confesseur hors pair va se répandre que les pécheurs les plus endurcis vont finir par aller le trouver, soit au cours de ses missions prêchées dans la région, soit à Ars. S'il le fallait, ces pécheurs étaient prêts à attendre plusieurs jours pour que vienne leur tour. Mais ce qui les étonnait toujours, c'était la petite pénitence qu'ils recevaient alors qu'ils avaient confessé des péchés extrêmement graves. Tout cela, ça a fini par revenir aux oreilles de ses confrères, qui étaient très mécontents de cette manière de faire, parce qu'ils étaient jaloux du succès de Jean-Marie Vianney. Eux, ils n'avaient plus grand monde dans leurs confessionnaux. Alors les confrères vont le dénoncer en l'accusant de brader le sacrement du pardon et en l'accusant de chercher la popularité en rabaissant le niveau des exigences. Et c'est pour s'expliquer sur ce point que le curé d'Ars finira par dire « Ce que je fais est très simple. Je leur donne une petite pénitence, et c'est moi qui fais le reste. » Vous comprenez que cette déclaration fait taire tous ceux qui voient dans ces mortifications la manifestation d'un esprit névrosé. Il s'agit plutôt d'une des plus hautes formes d'expression de la miséricorde et de la charité pastorale. Il donnait de petites pénitences et c'est lui qui faisait le reste. Tout son cheminement, exprimé par ce mot de ligorisme, lui a fait chercher comment ne pas accabler les pénitents, comment rendre le sacrement de réconciliation désirable. Mais en même temps, sa loyauté vis-à-vis de la loi de l'Église, loyauté qui lui avait été enseignée, lui a fait considérer que les pénitences devaient être effectuées dans leur intégralité, comme le demandait l'Église à l'époque. Et c'est pour cela qu'il s'imposait tant de mortifications. Il donnait une petite pénitence et il faisait le reste. Ces pénitences étaient, et cette mortification était tout à la fois l'expression de sa charité pastorale pour décharger les pécheurs d'un poids trop lourd, et aussi l'expression de sa loyauté vis-à-vis de l'Église. Enfin, il est bon de rajouter que comme le nombre de pèlerins n'a cessé de croître à Ars, ces mortifications, elles n'ont fait qu'augmenter aussi, puisqu'il donnait à tous une petite pénitence et que lui faisait le reste. Vous comprenez désormais combien sa déclaration « Je leur donne une petite pénitence et moi je fais le reste » nous laisse entrevoir un cœur de pasteur totalement configuré au cœur de Jésus, bon pasteur, qui a donné sa vie pour le salut des pécheurs. Grand mystère d'amour dans lequel nous allons plonger au cours des jours qui viennent. Amen. Pour ceux qui arrivent, je signale que la messe aura lieu à 16h45 après l'office de vêpres.